Bonsoir,
petit problème technique pour le jingle. Du coup, on va passer directement au fil d'info de ce Canu Info du mercredi 2 octobre.
Avec ce soir, grève dans les cantines scolaires à Lyon.
À Lyon, l'UMP a du mal à se faire une place sur sa droite.
Vague d'arrestation au Pays Basque Sud.
Les États-Unis reprennent la barbouzerie en Amérique du Sud.
Et puis nous aurons quelques brèves de zonze.
Déception sur le paquet de réformes sur la démocratisation en Turquie.
Encore quelques brèves à ce moment-là.
Un site internet du gouvernement sur l'IVG.
Et puis ce soir, une critique littéraire. On ne vous avait pas habitué à ça, mais une fois n'est pas coutume.
Et ensuite, il le faut que ça se sache. Et ton micro non plus. Alors, sans musique, transition. Donc, Villeurbanne, grève dans les cantines cette semaine. Donc, une assemblée générale a eu lieu mardi à l'initiative de la CGT qui a conclu à la prolongation de la grève. Alors, pourquoi cette grève? Les agents demandent plus de moyens matériels et de fonctionnement afin de réduire la pénibilité du travail dans les cantines scolaires, une amélioration de l'accès à la formation et la qualification pour ces agents, agentes, un accompagnement de leur parcours professionnel, l'amélioration des conditions de remplacement en cas d'absence, ça c'est dans beaucoup de secteurs, un ajustement des effectifs dans les écoles connaissant une forte évolution des effectifs d'enfants inscrits à la restauration. Donc les agents de cantine ne sont pas satisfaits pour l'heure des propositions faites par la ville de Lyon, formulées lundi, et donc en conséquence, jeudi et vendredi, le service de restauration scolaire sera à nouveau perturbé.
Et ben, hop, on enchaîne sur, si on va faire un petit peu des municipales à Lyon. Et ben, du coup, c'est pas facile pour l'UMP d'être de droite. Parce que Colomb, ben, on le sait, hein, il prend déjà toute la place. Et là, c'est un soutien à Michel Avard, qui est un député UMP du Rhône, qui dénonce des propos de Gérard Collomb, où il dit qu'il aurait dit d'arrêter de stigmatiser les Roms. Point. En disant que Gérard Collomb était vraiment trop sympa avec les Roms.
Qui aurait dit d'arrêter de stigmatiser les Roms?
Gérard Collomb, il aurait dit ça un jour, comme ça là, pour dire
alors ça
suffit et tout, faut être sympa avec eux et tout. Et ben bon, comme on le sait tous, hein, Gérard Collomb, c'est vrai qu'il kiffe les Roms quand même à Lyon. Mais cette déclaration n'est pas tout à fait juste, elle a été tronquée. Et dans la totalité, ça donne plutôt ça. Elle a été dit à l'époque où Sarko...
Ah, je m'en souviens.
C'est ça, à l'époque où Sarko, comme ça, il avait passé un peu la cinquième sur les démantèles camps de Rome et tout.
Et où, pour la première fois, la France avait été rappelée à l'ordre par les institutions européennes.
C'est ça.
La discrimination contre les Roms.
C'était en 2010, si je me souviens bien, je crois. Un truc comme ça. Alors là, si tu dis la situation exacte, c'est « Il faut arrêter de stigmatiser les Roms ». Jusque-là, on est d'accord. Mais ça continue. Le problème dans lequel s'est mis le président de la République, c'est qu'aujourd'hui, on ne va plus pouvoir procéder à aucune expulsion parce que c'est devenu une affaire pratiquement de droit européen et international. Et il poursuit. Il dit que c'est de plus en plus difficile d'expulser avec les procédures en cours. Il dit sur un terrain d'environ une centaine de Roms, j'espère qu'on va pouvoir mener dans le cadre des procédures les choses jusqu'au bout. Bon, alors c'est vrai que les pauvres, quand même, ils ont certaines contraintes à être de droite, mais quand même, on peut leur dire qu'ils peuvent essayer d'aller sur leur gauche à l'UMP, et ce serait pas non plus un gros pas à faire.
Alors, au Pays Basque Sud, donc le Pays Basque Sud, hein, on a bien noté que c'est une sorte de nom de code des Basques pour dire la partie du Pays Basque qui est située en Espagne. Au Pays Basque Sud, il y a eu lundi une vague d'arrestations dans l'association qui s'appelle Herrira et qui est une association qui est relativement jeune, dont le but principal est le soutien aux prisonniers basques et aux réfugiés basques, c'est-à-dire d'une part aux prisonniers qui sont quand même largement dans toute l'Espagne et dans toute la France, dans des prisons à des milliers de kilomètres de chez eux et de leur famille. et aux réfugiés, c'est-à-dire des gens qui sont dans le monde entier, qui, enfin bon, de toute façon on va découvrir tout ce que je commençais à vous dire, puisque nous avons appelé tout à l'heure la porte-parole de l'association Herrera, on a appelé celle du Pays Basque Nord, ce qui fait qu'elle a pu nous parler en français. Bonjour Émilie, vous êtes la porte-parole de Herrera, qui est, alors qui est quoi ?
Donc Herrera, bonjour tout d'abord, donc Herrera c'est le mouvement de soutien aux prisonniers et aux réfugiés politiques basques, et qui en fait est né il y a un an et demi à Saint-Sébastien, qui est un mouvement qui existe sur tout le Pays Basque, donc Pays Basque Nord et Pays Basque Sud, et donc qui a pour but le retour des réfugiés et des prisonniers dans le cadre du processus de paix qui est actuellement enclenché en Pays Basque depuis plus ou moins la conférence de paix d'Ayété qui avait eu à Saint-Sébastien.
Alors quand vous dites les réfugiés, ça veut dire qui ?
Mais les réfugiés politiques basques, ce sont les personnes qui ont dû fuir leur pays à cause du conflit ou leur village à cause du conflit politique basque. On est réfugiés, il y en a au Pays Basque Nord, mais il y en a aussi à travers le monde. Des personnes qui ont dû s'exiler à cause du conflit et à cause de la répression.
Et qui sont des gens qui vivent dans la clandestinité ou pas ?
Il y a des personnes qui vivent à travers le monde, des personnes qui vivent publiquement au Pays Basque Nord. Un panorama, c'est l'argent entier.
Il y a tout ce problème autour des prisonniers basques, c'est qu'ils sont en prison éventuellement très très loin du Pays Basque.
Tout à fait. Actuellement, il y a 6 prisonniers politiques basques. Il y en a 130 plus ou moins dans l'État français et le reste dans l'État espagnol. Et le plus grand problème qu'on a, c'est la dispersion. Donc les prisonniers sont dispersés en moyenne à 800 000 km du Pays Basque, donc de leur famille. Donc c'est quand même un coût physique et financier énorme pour les familles d'aller tous les week-ends rendre visite à leurs amis, aux frères, aux sœurs, aux maris, aux femmes. Et donc voilà, on a déjà ce problème-là. Et nous, ce que Herrera en revendique, c'est donc le rapprochement des prisonniers basques au Pays Basque et pour qu'aussi les prisonniers puissent participer au processus de paix qui est enclenché actuellement. Après, à part de la dispersion, on a le cas de 15 prisonniers qui sont gravement malades, donc qui sont incarcérés dans les États français ou espagnols. Actuellement, il y en a un qui est incarcéré dans l'État français. Il s'agit d'Yvonne Fernandez-Civadi qui est incarcérée à la maison et qui a par exemple une sclérose en plaques. Donc nous, ce qu'on demande, c'est qu'immédiatement, ces 15 prisonniers soient relâchés pour qu'ils puissent avoir un traitement digne à l'extérieur. Et après, dans nos revendications, nous avons aussi donc les longues peines ou les peines à perpétuité en France. Actuellement, il y a 4 prisonniers qui ont une peine à perpétuité, donc ils n'ont pas de date de sortie. Ils sont en train de faire des demandes de conditionnel, mais par exemple, on a Yonke Paparo qui est incarcéré à Muret, s'est vu refuser 4 fois ses demandes de conditionnel. Donc on voit pour le moment que l'État français n'a pas décidé de faire de pas au sujet des prisonniers et dans le sens du processus de paix. Et au Pays Basque Sud par rapport aux militants du Pays Basque Sud et qui sont incarcérés en Espagne, on a donc une histoire de, ça s'appelle la doctrine 197-2006. C'est une doctrine qui est appliquée aux prisonniers à la fin de sa peine, ou on va dire qui est appliquée au moment où il va sortir de prison. On lui applique cette doctrine-là et grâce à cette doctrine, on lui rajoute 10 ans de plus. Le fait de pratiquer cette doctrine-là, en fait, il y a des recours qui ont été faits en Europe sur le cas d'une prisonnière qui s'appelle Inès Derrio, qui est un recours qui a été mis il y a 2 ans. Donc, premièrement, la Cour européenne des droits de l'homme avait estimé que Inès devait sortir, que ça allait à l'encontre des droits de l'homme, et que cette doctrine-là aussi allait à l'encontre des droits de l'homme, et donc avait demandé à l'Espagne la libération de cette prisonnière et la fin de cette doctrine-là. De là, l'Espagne avait fait un recours. Donc il y a eu encore un procès et là on en attente dans les prochains jours, là c'est en actualité aussi, de la réponse de la Cour européenne des droits de l'homme sur cette thématique.
Alors pour essayer de un peu mieux comprendre l'histoire de cette doctrine là qui a l'air d'être un gros enjeu, sur quelle base l'État espagnol peut décider de garder quelqu'un 10 ans de plus ?
Mais en fait c'est très compliqué à expliquer, il y avait l'ancien code pénal espagnol, en fait ils ont changé le code pénal en 96. Donc avant, en fait, si vous voulez, les prisonniers qu'il y avait avant, ils avaient une date de sortie avec les remises de peine, etc. Tous ceux qui sont incarcérés après ce ou jugés après ce code pénal-là les remises de peine ne sont plus prises en compte. Et en fait, grâce à cette doctrine-là, tous les prisonniers qui ont été jugés avant, on leur enlève les remises de peine. Et on les oblige à aller faire des condamnations jusqu'au maximum, qui est de 30 à 40 ans. Imaginez-vous, vous êtes en prison, vous avez une date de sortie, donc vous avez fait souvent 18 ou 20 ans de prison. Vous êtes prêt à sortir à Evors. Et là, il y a un fax qui arrive à la prison, et là, on vous dit, on vous applique la doctrine 197-2006, et donc on vous rallonge de 10 ans votre peine. Ça se fait, et c'est comme ça. C'est une interprétation de la loi, en fait.
Pour revenir à votre mouvement, Herrera existe depuis quand et ça a été monté comment ?
Donc Herrera a été monté il y a un an et demi, donc ça se veut être un mouvement populaire et ouvert à tous. Il s'est créé au moment, juste après, j'en ai parlé avant, de la conférence d'Ayété, la conférence de paix d'Ayété à Saint-Sébastien, où il y avait plusieurs personnalités internationales comme Kofi Annan qui avait été là pour statuer du processus de paix enclenché à Pays Basque et donc avait mis plusieurs points pour que ce processus de paix l'avance. Donc avait demandé à l'organisation ETA de faire un pas en avant pour montrer qu'ils ont envie d'aller vers la paix. Et après, plusieurs points avaient suivi et dont l'affaire des conséquences du conflit qui sont les prisonniers et les réfugiés dans notre cas. Donc Herrera est né suite à cette conférence-là et est né pour faire avancer la question des prisonniers et des réfugiés et surtout pour qu'au final on arrive à que leur retour soit fait au Pays Basque, qu'ils soient libres, maîtres de leurs droits et qu'ils puissent participer au processus de paix enclenché en Pays Basque.
Et alors là, lundi, hop, descente dans 4 de vos locaux et arrestation de 18 personnes.
Voilà, donc lundi, au Pays Basque Sud, donc la audience nationale, on voit la garde civile donc fermer 4 de nos locaux. Donc ces 4 locaux sont fermés sous scellés, on ne peut plus a ordonné aussi l'arrestation de 18 membres des RIDA, a aussi demandé la fermeture de nos comptes bancaires qui sont au Pays Basque Sud, et aussi la fermeture de notre site internet, de nos Facebook, de nos Twitter, donc tout ce qu'on a pour travailler au niveau communicatif. Donc nous, comment on analyse cette répression assez subite, il est vrai qu'on s'y attendait pas. ERIDA, c'est quand même un mouvement assez large. ERIDA fait un travail quotidien avec plusieurs acteurs politiques et sociaux du pays entier. Donc il est vrai que les personnes ont été assez surpris de cette réaction de l'État espagnol et comment on l'explique. Et clairement qu'il n'y a pas de doute que ERIDA est un outil indispensable pour le processus de paix. Et on voit là que l'Espagne essaie de nous couper, ou de nous faire disparaître, parce que on a un outil qui marche, on a un outil qui mobilise beaucoup, beaucoup de gens. Il faut rappeler qu'ERIDA, à un an et demi, a fait deux grosses manifestations. Une qui a réuni 15 000 personnes dans les rues de Bayonne et une autre qui a réuni 115 000 personnes dans les rues de Bilbao. Donc là, on voit vraiment que l'État espagnol est, on va dire, paniqué, je mettrai entre guillemets, et donc essaie de nous faire taire assez radicalement pour que la dynamique au sujet des prisonniers et des réfugiés n'avance pas dans le cadre du processus de paix. Donc l'Espagne fait un pas en arrière et une négation totale au processus de paix. Et je pense qu'aujourd'hui, le Pays Basque et les citoyens du Pays Basque sont choqués de cette action-là. Il y a eu une grosse conférence de presse hier au Pays Basque Sud avec plusieurs acteurs politiques et sociaux du Pays Basque pour dénoncer cette répression-là. Tous ces acteurs politiques et sociaux ont réapprouvé leur engagement envers ce que l'ERIDA leur avait demandé. Ils ont dit qu'eux aussi, ils seraient là pour que cette dynamique avance. On pense que les 18 personnes vont passer devant les juges d'ici aujourd'hui à demain. Donc on en saura beaucoup plus sur le devenir de l'ERIDA au Pays Basque Sud, sachant que l'Espagne est bien connue pour avoir illégalisé beaucoup de partis ou mouvements. Donc on se pose cette question-là aujourd'hui. Est-ce que l'Espagne va nous illégaliser au Sud, oui ou non?
Et les 18 personnes qui ont été arrêtées sont accusées de quoi?
Ils sont accusés d'apologie au terrorisme, de soutenir le PA, financement au terrorisme, etc. Ça rejoint un peu la théorie que l'Espagne a, on va dire, utilisée pendant ces 15 dernières années pour illégaliser tout mouvement, c'est que tout est État. Donc, grâce à cette théorie-là, ils illégalisent partis politiques, journaux, mouvement de jeunes, mouvement de soutien aux prisonniers, plusieurs mouvements de soutien aux prisonniers ont déjà été légalisés, etc. Je pense qu'au Pays Basque, on pensait qu'on allait sortir de cette phase d'illégalisation. De toute manière, là, ce qui se passe, c'est que l'Espagne nous montre qu'il ne veut pas faire avancer ce processus de paix, alors que tout autre parti essaie de le faire avancer. Les citoyens se mobilisent pour que ce processus de paix avance. L'OTA a pris des décisions historiques, hein, faut le dire, envers ce processus de paix-là, le collectif des prisonniers, le collectif des réfugiés aussi. Donc maintenant, il manque plus que la réaction des deux États, français et espagnol. Et pour le moment, ça ne bouge pas. Encore, on a pu voir lundi, la ministre Taubira a signé un accord encore avec l'Espagne au niveau juridique. Donc on s'imagine bien que la question basque doit être dans cet accord-là. Il y a un mandat d'arrêt européen qui a été émis contre un porte-parole du collectif des réfugiés basques. Donc le collectif des réfugiés basques avait organisé un meeting le 15 juin dernier où ils avaient affirmé leur engagement dans le processus de paix. Et donc suite, quelques jours après, trois réfugiés politiques basques ont été arrêtés dans le porte-parole du collectif. Donc on voit bien aussi dans quelle position est la France aujourd'hui vis-à-vis du processus de paix. Et là, pour le moment, sur ERIDA, on n'a pas plus d'informations juridiques. On ne sait pas encore ce que l'Espagne va faire. Mais on reste aussi attentif à ce que la France va faire dans les mois qui viennent avec ce mouvement. On n'est pas à l'abri d'une réaction française.
Vous y croyez toujours au processus de paix?
Bien sûr qu'on y croit toujours. Et je pense que les mouvements qui sont en train de se créer dans tout le Pays Basque aujourd'hui montrent bien que ce processus de paix ira de l'avant. Parce que tant que les citoyens veulent le faire avancer, il avancera ce processus de paix. Les États français et espagnols peuvent nous envoyer toutes leurs répressions qu'ils veulent. Tant que la base et n'importe quel citoyen veut le faire avancer, il avancera. Et hier, la conférence de presse qui a eu lieu à Bilbao Moi, je pense qu'elle a été exemplaire parce que vraiment, tous ces acteurs politiques et sociaux ont dit qu'ils prenaient leur engagement et que cette question des prisonniers et des réfugiés, ils allaient la faire avancer. Parce qu'il est vrai que le processus est un peu bloqué, un peu sur ces questions-là aussi. Quoi. Parce que pour le moment, on attend encore la réaction des États français et espagnols.
Bonjour Émilie, vous êtes la porte-parole de Herida.
Il y a un petit problème.
Alors, qui est quoi ?
Donc Herida, bonjour tout d'abord. Et donc Herida, c'est le mouvement de soutien aux prisonniers et aux réfugiés.
Oui, petit problème technique de clé USB.
Ton micro n'est pas branché.
Non.
Donc en fait, on était en train de se dire soir, qu'on avait un petit problème technique de clé USB, mais comme le micro de la personne qui disait ça n'était pas branché non plus, vous n'avez pas pu l'entendre.
Alors,
donc voilà,
tu...
j'ai pété la clé USB. Donc on enchaîne avec le Venezuela, où les États-Unis d'Amérique reprennent les campagnes de barbouzerie, comme à la belle époque. Pardon, je m'entendais. Donc, avec sabotage électrique, violence de rue, organisation de pénurie sur certains produits et une spéculation contre certains intérêts du pays. Les Américains ont même été jusqu'à... Enfin, les Américains. En tout cas, l'affaire a même été jusqu'à toucher l'Airbus présidentiel, donc qui a été acheté en 2002 à l'Europe, quoi. Et donc, il y a... Il y a quelques mois, l'avion est resté 5 mois en France pour une révision. Il est revenu au Venezuela avec une fuite de carburant et un problème sur une aile. Anomalie détectée par la sécurité publique du Venezuela. Les porte-paroles d'Airbus... ça va pas aller si vous rigolez, je vais pas tenir. Les porte-paroles d'Airbus ont répondu que ce n'était pas Airbus qui s'occupait de la maintenance. Le gouvernement de Caracas n'a pas l'air ravi de cette réponse et donc il est somme de donner une explication sous peine d'être accusé de complicité de sabotage et de tentative d'homicide contre le président vénézuélien. C'est dans ce contexte que ce matin, la présidence du Venezuela a décidé d'expulser 3 diplomates qui étaient accusés, preuve à l'appui, il y a notamment des vidéos qui sont disponibles sur YouTube, d'ingérence flagrante dans les affaires et les choix politiques du pays. Ces 3 fonctionnaires ont 48 heures pour quitter le pays. Donc c'est Kelly Kerderling, qui était chargé d'affaires à l'ambassade américaine, David Mou, vice-consul américain à Caracas, et Elisabeth Hoffman, secrétaire adjointe pour les affaires politiques à l'ambassade. Donc c'est pas non plus des petits gens, comme on dit. Donc le gouvernement de Caracas dit: nous avons opéré un groupe de responsables de l'ambassade des États-Unis qui se consacrait à des rencontres avec l'extrême droite, au financement et à l'encouragement d'actes de sabotage contre le système électrique et l'économie du pays. Voilà, en représailles, Washington a expulsé 2 autres fonctionnaires, l'ambassadeur et 2 autres fonctionnaires de Caracas.
Alors, deux petites brèves là sur les prisons. La première, pas très drôle, c'est à Corbin, un détenu de 25 ans qui se serait suicidé par pendaison à la maison d'arrêt ce matin. Alors là, je dis ce serait, il est vraiment mort. Après, c'est juste parce qu'on parle... Enfin, dès que quelqu'un meurt en prison, on met le mot suicide direct avant de savoir vraiment ce qui s'est passé, mais voilà. Il purgeait une courte peine et était libérable en 2014. Alors, un syndicat de matons a réagi en se couvrant direct, en disant qu'il n'était pas responsable. Il a dit, je cite, « C'est inexplicable, il ne présentait aucun critère suicidaire, à part celui d'être enfermé, effectivement. » Pour rappel, la prison de Corba est la prison de France qui a le plus gros taux de suicide. Il est 5 fois supérieur à la moyenne nationale. Cette nouvelle prison a pourtant été vendue il y a quelques années comme ultra moderne. Mais dès le départ, beaucoup de détenus, notamment certains qui ont été transférés à Corba au moment de la fermeture de la prison de Saint-Paul, vers Perrache. Du coup, beaucoup de détenus sont plaints de cette ultra-modernité qui isolait les détenus entre eux et qui les maintenait dans la solitude. Autre chiffre, la France détient également le record du plus gros taux de suicide d'Europe avec 19,7 suicides pour 10 000 détenus devant la Lituanie, la Slovénie et le Portugal. Autrement, on va finir sur une bonne nouvelle pour ces brèves. Tony Musulin est sorti de prison, ça y est.
Ouais.
Il avait été condamné, on le rappelle, à 5 ans de prison en appel, tiens, en 2010, sur les 11,6 millions d'euros qu'il avait braqués. 9,1 millions d'euros ont été retrouvés. Il y aurait donc encore 2,5 millions d'euros qui dorment encore bien au chaud. Alors lui, à un moment, avait déclaré que...
Si tu nous entends.
Comment ?
Je dis Tony, si
tu nous entends. Ouais, c'est ça. Radio Canu a quelques difficultés financières. On t'a toujours soutenu, sache-le. Bon, je pense que t'auras plein de gens qui vont te dire ça. Hein. Mais... Voilà, à un moment, il avait dit dans son procès que les 2,5 millions d'euros, c'était Michel Néret qui s'était mis dans la poche.
Oui. Michel, si tu nous entends. On t'a toujours... non, merde.
C'est ça, toi qui n'es pas resté très longtemps en prison, si on peut le souligner quand même. Faut juste espérer que si tu nous écoutes, un petit conseil, mais j'imagine que tu l'as en tête, si c'est toi qui les as, va pas aller chercher tout de suite, parce qu'à mon avis, ils vont te filer un moment.
Alors, grosse déception sur le paquet de réformes pour la démocratisation en Turquie. C'est donc avant-hier lundi que le président Erdogan a annoncé le paquet de réformes en question. Et alors, d'où elles viennent ces réformes ? Alors, en particulier, elles font suite à deux trucs qui sont d'une part les négociations de paix qui ont été entamées depuis plus ou moins un an avec le PKK, donc le Parti des Travailleurs du Kurdistan, le mouvement indépendantiste kurde. Mouvement indépendantiste et armée kurde. Et d'autre part, à ce mouvement qu'il y a eu au début de l'été en Turquie, d'occupation des places, mouvement type indigné, avec en particulier la place Taksim à Istanbul, qui était la place symbole. Alors on revient un peu en arrière, du coup, avec ces histoires de négociations qui ont commencé entre le gouvernement turc et en particulier le Abdullah Öcalan, qui est le leader du mouvement indépendantiste kurde, qui est en prison depuis 1999, et qui met en prison, qui garde un statut, en tout cas une importance au minimum symbolique et affective extrêmement forte pour les Kurdes et pour le mouvement indépendantiste kurde. Et donc, le 21 avril dernier, Öcalan avait appelé les membres du PKK à déposer les armes, à retirer les combattants du sol de la Turquie et à partir dans les pays frontaliers, en particulier au nord de l'Irak. Bon, de fait, le PKK avait commencé un processus comme ça, mais là, quand même, au mois de septembre, petit à petit, ils avaient commencé à perdre un peu confiance dans la réalité de la volonté de réforme du gouvernement turc et ils avaient suspendu le retrait. Début septembre, ils avaient pris cette décision. Donc parallèlement, on y revient sur cet autre truc-là qui est au mois de juin, la Turquie qui avait connu ce mouvement d'occupation de place, donc la place Taksim, etc. Et ce mouvement protestait en particulier contre le manque de liberté démocratique et aussi contre l'islamisation de la société. Donc là, il faut se souvenir que le parti qui est au pouvoir en Turquie en ce moment, l'AKP, et non seulement qui est au pouvoir, mais qui est extrêmement au pouvoir, c'est-à-dire que dans les différentes institutions de pouvoir, maintenant ils sont majoritaires partout. Et donc ce parti est un parti qu'on pourrait qualifier de islamo-libéral. Du coup, le président Erdogan, qui quand même, avec ces histoires du PKK et puis face à ce mouvement de contestation, se sentait plus très très solide. Il faut dire que le mouvement de contestation avait été terminé par une répression massive, mais disons que le gouvernement n'était pas sorti grandi. Et donc le président a décidé a annoncé en tout cas que ça y est, cette fois-ci, il allait tout chambouler, il allait faire des énormes réformes pour les libertés, blablabla. Il a entamé ce processus de paix avec le PKK et lundi, donc, il présente ses réformes. Alors attention, il les présente en disant « Aujourd'hui, notre pays, notre nation fait l'expérience d'un moment historique et nous sommes en train de faire des pas pour rendre la Turquie encore plus grande. » Alors là, bien sûr, on s'attendait à quoi ? On s'attendait à la dissolution de la police et de l'armée, à une réforme constitutionnelle de ouf, avec indépendance du Kurdistan ou quelque chose comme ça. Résultat, alors, qu'est-ce qu'il y a dans ces réformes ? Alors, déjà, une réforme, les femmes voilées. Alors il faut savoir qu'en Turquie c'est une république qui est quand même ultra ultra laïque et qui y tient depuis les années 20, et donc les femmes voilées ne pouvaient pas occuper d'emploi dans la fonction publique. Et à partir de maintenant, les députés, les fonctionnaires et même les profs pourront porter le voile au boulot, juste pas les flics et pas les militaires. Et alors pour les religions autres que musulmanes, puisque tant qu'à faire des pas pour les musulmans, ces religions espéraient beaucoup de ces réformes, en particulier les Alevis, là, qui sont une sorte de branche un peu marginalisée de l'islam, pas toujours bien vue par les autres musulmans. Ces autres religions ont eu que dalle en fait, que dalle. Si un petit monastère orthodoxe qui était en litige pour des terres qui se seraient fait piquer à un moment, et donc les terres vont lui être rendues. C'est donc ça qu'ont eu les non-musulmans. Alors, ah, les Kurdes. Bah oui, les Kurdes, bien sûr, parce que c'était quand même une des parties les plus importantes. Alors là, vous allez voir, maintenant, il pourrait y avoir l'école pourrait être faite en kurde. Seulement, attention, uniquement à partir de 13 ans. Bon, aujourd'hui, on peut déjà... La langue kurde est plus interdite, ça, quand même, depuis une dizaine d'années ou quelque chose comme ça. Du coup, on peut aller se faire enseigner en langue kurde, mais à partir de 18 ans et de la fin de la scolarité obligatoire et tout ça, là. Maintenant, à partir de 13 ans, on devrait pouvoir. Bon, quand même pas tout minot, mais à partir de 13 ans. Et sauf que ça sera pas l'État qui assurera ces cours. Tout ça est renvoyé au privé. Donc il faudra qu'il y ait des gens qui s'organisent pour créer des cours en kurde, et il faudra qu'il y ait des gens qui aient du pognon pour payer les cours en kurde. Ça, c'est la seule réforme qui va un tout petit peu dans le sens de ce qu'avaient pu demander les organisations kurdes. Les autres réformes sur les Kurdes, elles relèvent vraiment du symbolique le plus pur, c'est-à-dire qu'il y a certains bleds qui avaient été débaptisés en 1980 au moment d'un coup d'état militaire, et ces bleds-là auront le droit de reprendre leurs anciens noms kurdes. Et puis l'autre réforme un peu symbolique là, bon, en réalité qui va changer quelque chose dans la vie des gamins, de tous les gamins de Turquie semble-t-il, c'est que jusqu'à aujourd'hui là en Turquie, tous les matins si on va à l'école, on commence sa journée en se mettant en garde à vous devant le drapeau avec tous ses camarades de classe et en récitant une sorte de petite prière laïque comme ça qui dit je suis turc, je suis franc, je suis travailleur, blablabla, blablabla. Et ben ça, hop, c'est supprimé. Ce qui va quand même, à part 2 minutes de la vie des gamins, pas non plus changer radicalement la face de la Turquie. Alors pour le reste des fameuses libertés démocratiques, eh ben s'il y a un truc constitutionnel, bon, bon nous peut-être on comprend pas entièrement l'enjeu, mais en tout cas jusqu'à maintenant il faut qu'un parti ait au moins 10% à des élections pour être représenté au Parlement. À partir de maintenant, ça sera possible à partir de 5%, donc la voie ouverte à des plus petits partis. À part ça, que dalle sur les lois antiterroristes en particulier, qui sont quand même un des énormes problèmes démocratiques de la Turquie ces dernières années, qui font qu'il y a des centaines et des milliers en fait de gens qui sont en prison pour des délits d'opinion et des délits politiques, en particulier énormément de journalistes, mais pas que. Là, enfin, ces dernières années, il suffisait qu'un membre du PKK ait dit tiens, il fait beau aujourd'hui, et que derrière quelqu'un d'autre ait dit tiens, c'est vrai, pour se retrouver en prison en une seconde. Enfin, j'exagère un peu, mais vraiment de parler du mouvement kurde de façon positive, ça suffisait vraiment à vous envoyer directement en prison. Alors on a quelques petites réactions, hein. La direction du PKK qui dit le paquet de réformes qui a été annoncé démontre que l'AKP, donc le parti au pouvoir, a adopté une politique de non-résolution de la question kurde. On comprend avec ces annonces que rien d'autre n'a été pris en considération que la recherche d'un nouveau succès électoral, a poursuivi la direction du PKK. Il faut savoir qu'il y a des élections municipales au mois de mars prochain. Le gouvernement, alors ça c'est un parti de gauche laïcard qui dit « Le gouvernement a déserté face aux principaux problèmes de ce pays et nous a présenté ses réformes pour échapper aux pressions de la société. » Et enfin, un journaliste dans le journal Radical, Ahmed Dinsel, il déplore que rien ne figure dans ce paquet concernant les graves atteintes aux droits fondamentaux résultant d'une conception très large de la notion de terrorisme dont ont été victimes de nombreux militants kurdes. Sur la question kurde, le gouvernement s'est tenté d'autoriser l'enseignement du kurde dans les établissements privés, de permettre le retour des noms de lieux en kurde et l'usage de cette langue pour faire de la propagande électorale. Si ces développements sont de fait réellement positifs, la possibilité d'enseigner désormais en deux langues dès le primaire dans le privé donne à la langue kurde une légitimité sur laquelle il ne sera plus possible de revenir. Nous sommes néanmoins en présence d'un statut octroyé qui rappelle celui des minorités. Alors là, il s'agit de minorités reconnues dans le cadre du traité de Lausanne en Turquie, donc les Grecs, les Arméniens et les Juifs. Et c'est bien là la contradiction principale de cette annonce, dès lors que les Kurdes de Turquie, contrairement à leur volonté d'être acceptés comme des citoyens à part entière, sont donc orientés vers un statut de minorité reconnue, ce qui n'est quand même pas tout à fait la même chose.
Prostitution, alors on vous a parlé ces dernières semaines d'un rapport qui avait été rendu par Maud Olivier qui servirait de base à une proposition de loi pour pénaliser les clients de la prostitution. Donc en fait, le rapport, il a été soumis au groupe socialiste de l'Assemblée nationale. il y a 2 semaines. Excusez-moi. Et du coup, le groupe socialiste de l'Assemblée nationale a voté son soutien au dépôt de la proposition de loi. Donc ce sera une loi abolitionniste. La proposition de loi, elle est portée par les députés Maud Olivier et Catherine Coutel. Elle risque d'être déposée dans les prochains jours. Donc voilà, on vous tiendra plus au courant de ce qu'il y a quand elle sera déposée. Et vous pouvez déjà toutefois noter que le 26 octobre, il y a une manifestation qui est organisée contre cette proposition de loi qui vise à pénaliser les clients des prostituées et des travailleuses du sexe. Et ça sera à Paris, c'est organisé par le STRAS, le syndicat des travailleuses et travailleurs du sexe. Et ça sera le 26 octobre.
Une petite brève rigolote, Barilla, la pâte traditionnelle, donc... Ne vous inquiétez pas, le capitalisme se porte bien, les buzz sur internet aussi, et là ça montre que les gays sont au service du capitalisme. Donc Guildo Barilla, c'est le président du célèbre groupe agroalimentaire du même nom, leader mondial de la pâte sèche, et un ardent défenseur du Made in Italia et de la famille traditionnelle. Donc il était invité dans une émission de radio italienne le 25 septembre, et du coup un des animateurs lui a posé cette question: feriez-vous une publicité avec un couple gay? Et la réponse de Barilla: pas question, j'aime la famille traditionnelle, si les homosexuels ne sont pas contents, ils peuvent manger des pâtes d'une autre marque. Donc depuis, les concurrents de Barilla, du coup ça a fait le buzz sur internet, et les concurrents joue à celui qui sera le plus gay-friendly, donc Buitoni. Chez nous, chez nous, il y a de la place pour tout le monde. Et Garofalo, les seules familles qui n'achètent pas notre marque sont celles qui n'aiment pas les pâtes. Voilà, les, n'oublions pas, les homos sont un marché, ils font vendre.
Et du coup, après, comme il a vu que ça faisait de l'ampleur, qu'il s'était dit, merde, peut-être qu'il y a des gens qui vont pas acheter mes pâtes et tout. Il a dit non, mais pardon, c'est pas vraiment ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que chez nous, la femme, elle a une place tellement importante dans la cuisine qu'on peut pas mettre un couple homosexuel dans nos publicités.
Sexiste. Ah bah ça va mieux alors. Exactement. Je suis rassurée.
C'est à moi avec donc la Fédération française des télécoms qui a commandé une étude parce qu'ils se sentaient un peu lésés. Donc ça représente les acteurs du secteur télécom français. Donc on demandait à un cabinet de consulting d'analyser les impôts payés par des grands groupes multinationaux en 2011. Et donc il s'est avéré que pour donc, le total des impôts évités par Apple, Google, Facebook, Amazon et Microsoft, donc ces 5 seuls groupes, représentent 792 millions d'euros donc, par an, hein, c'est pas... Enfin, voilà. Donc tout ça se passe par un système d'optimisation fiscale. Donc par exemple Facebook, on estime que donc en évitant de faire payer ces trucs, ils arrivent à passer de 170 000 euros d'impôts payés, ce qui est une belle somme, à ce qu'ils auraient dû payer 10 millions d'euros, donc soit 9 millions 800 000 euros de c'est pas des bénéfices, mais
de
manque à gagner pour l'État français. Google, lui, qui est souvent cité en exemple grâce à ses montages avec l'Irlande, donc en gros le siège social de Google est en Irlande, et toutes les activités de Google sont, pour l'Europe, sont en Irlande. Alors Google, eux, dans le monde, on estime qu'ils arrivent à se faire taxer leurs bénéfices à 3,2%, en sachant que le taux moyen oscille entre 26 et 34%. Voilà. Il fait bon être une entreprise multinationale.
L'organisation des réseaux qui nous intéressent.
Alors, le 28 septembre, il y a le gouvernement qui a mis en ligne un site officiel sur l'IVG. C'est www.ivg.gouv.fr. En fait, ils ont mis ce site en ligne parce que il y avait des acteurs... associatif, entre autres le planning familial, qui avait dénoncé depuis quelques temps le fait que quand des personnes elles cherchaient des infos sur l'IVG sur internet, elles tombaient très vite sur des sites qui étaient des sites qui se présentaient comme pro-IVG et en fait qui étaient anti-IVG, et du coup qui faisaient toute une espèce de propagande pour empêcher pour dissuader les personnes de se faire avorter. Et donc du coup il y avait ce projet là dans les tuyaux du gouvernement, donc pour une fois qu'ils font un truc pas mal, on va le souligner. Donc je suis allée voir le site, il est assez complet d'un point de vue pratique. Alors voilà, c'est un site très institutionnel, très pratico-pratique, c'est pas du tout un site militant, il n'y a pas des choses sur... Enfin voilà, vous n'allez pas chercher l'histoire des luttes sur l'IVG, c'est pas là que vous allez trouver. Et en tout cas, le site, il est assez complet d'un point de vue pratique. Ce qui est bien, c'est qu'il explique les délais de l'IVG dans un langage à peu près compréhensible pour tout le monde. Il explique les méthodes et il explique les coûts de l'IVG. Il explique aussi le déroulement d'une IVG, comment ça se passe, combien de consultations il y a avant l'intervention, etc., etc. Et ça, en fait, c'est vachement intéressant qu'il explique le déroulement de l'IVG parce que c'est écrit noir sur blanc sur le site que l'entretien psychosocial, c'est pas obligatoire pour les femmes majeures. L'entretien psychosocial, vous savez, c'est l'entretien où parfois on vous dit des trucs comme « Il est où le papa ?» ou alors « Vous êtes sûr que vous n'allez pas le regretter ?» Et en fait, au début, c'était obligatoire cet entretien. Et je crois qu'il y a eu un changement de loi, il me semble que c'était en 2001, ouais. Et en 2001, il y a eu un changement de loi qui a fait sauter le caractère obligatoire de cet entretien psychosocial. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que dans la pratique, il y a certains services qui proposent des IVG et qui continuent à proposer cet entretien aux femmes sans expliquer que c'est facultatif. Alors du coup, il y a plein de femmes qui subissent cet entretien alors qu'elles préféreraient pas. Et évidemment, ceux qui font passer l'entretien comme un truc qu'on peut pas éviter, c'est évidemment ceux qui ont un peu des trucs à vous bourrer dans le crâne. Alors, du coup, c'est bien là que ça soit écrit que cet entretien, il est vraiment facultatif pour les femmes majeures. Et un autre truc qui est bien, c'est qu'il y a tout plein de choses expliquées pour accéder à l'IVG quand on est mineur. Et comment procéder, comment faire vis-à-vis du consentement des parents et quand on n'a pas le consentement des deux parents ou quand on a le consentement d'aucun des parents, etc. Donc ça, c'est pas mal. Alors, il y a aussi les textes de loi, il y a les infos sur la contraception, il y a des contacts utiles, des noms d'assos, des centres de planification, des établissements d'information, de consultation, etc. Donc c'est plutôt pas mal, mais bon, une critique, il en faut bien une. En fait, c'est quand même précisé dans les cas particuliers que l'IVG est prise en charge à 100% pour les femmes mineures sans consentement des parents, pour les femmes bénéficiaires de la CMU et de l'AME. Et là, c'est là que ça me fait rigoler, parce que cas particulier, les bénéficiaires de la CMU et de l'AME, faut pas déconner quand même, ça fait quand même une petite poignée de gens. Mais ils n'expliquent pas du tout comment ça se passe pour les femmes qui n'ont pas d'assurance maladie. Et c'est quand même une certaine partie
pour
des gens.
Le cas général.
Peut-être pas le cas général, mais c'est une certaine partie des gens. Par exemple, je pense aux migrants qui remplissent pas les conditions pour accéder à l'AME ou etc. Et donc, ou alors les personnes qui sont dans la rue ou peut-être qui ont jamais fait une assurance maladie. Donc là, c'est rien expliqué. Et puis, bien sûr, il y a aucun lien vers de la doc ou de l'info en langue étrangère. Et bon, alors bien sûr, on pouvait pas rêver que le gouvernement ferait un site en langue étrangère, mais comme l'accès à, enfin, comme c'est bien plus difficile pour les femmes étrangères d'avoir accès à une information vraiment claire concernant l'IVG, et que du coup leur accès à l'IVG il est fortement limité par cette difficulté-là, ça aurait été intéressant de mettre des liens vers de la doc ou de l'information en langue étrangère, et là il y a juste rien du tout. Donc voilà, mais en tout cas, pour tous les autres cas, c'est assez pertinent, et c'est www.ivg.gouv.fr.
Radio Canu, la plus rebelle des radios.
Alors, maintenant, une petite critique littéraire. Donc, une fois n'est pas coutume, je profite aujourd'hui pour critiquer un bouquin qui est sorti en septembre aux presses de la Cité, qui s'appelle Girl Fight, et c'est un bouquin de Audrey Chénu. Et c'est donc, qu'est-ce que c'est ce bouquin ? C'est une autobiographie qui raconte donc son enfance, ses périodes de dileuse, ses périodes de zonze, les diplômes qu'elle a passés en prison, son intégration dans l'éducation nationale pour devenir instite, son engagement en tant qu'instite pour des méthodes d'éducation populaire type Freinet, son féminisme, son coming out de lesbienne, sa passion pour le slam, etc. Et donc... malgré des résumés souvent plutôt, on peut dire quand même mauvais, qui sont faits de ce livre, eh ben, ce livre n'est pas une histoire de rédemption. C'est une histoire qui raconte la rage d'une personne contre le système carcéral où elle s'est retrouvée plusieurs années. La rage contre cette société patriarcale, capitaliste et raciste. Voilà, beaucoup de rage dans ce bouquin. Et aussi, ben... Après, c'est une position critiquable, mais sa position dans son autobiographie, c'est de lutter contre le système par l'intérieur. Et voilà, elle essaye de se dépatouiller comme ça. Et du coup, voilà, il vaut le coup d'être lu. Et pour ça, ben, Je vais plutôt vous lire tout de suite un extrait du livre, ce qui fait toujours plus envie qu'une petite chronique. À la MAF de Versailles, le mitard se trouve au deuxième étage. Il ressemble à n'importe quelle autre cellule, en pire. Tout y est fixé au sol, tout est sale et ça pue l'acier rouillé. C'est un régime d'isolement strict. Interdit d'apporter sa nourriture, sa radio. Interdit également de participer à quelques activités que ce soit. Une heure de promenade par jour à l'isolement. Le reste du temps, j'écris ou je lis. Le soir, je communique avec Sabine, qui occupe seule la cellule au-dessus et est là depuis bientôt 3 ans. Elle est passionnée par le conflit israélo-palestinien. Par la fenêtre, nous discutons de politique internationale. Elle me fait la lecture, des blagues de Coluche, j'adore. Sabine a 20 ans, elle est blanche, vient d'une cité de Nanterre et va devenir quelqu'un de très important pour moi. Je vais découvrir avec sidération l'histoire de cette fille abusée par son beau-père, qui lui écrasait des cigarettes sur le corps, tandis que sa mère laissait faire. Une mère qu'elle a fini par tuer de plusieurs coups de couteau. Elle risque 20 ans de réclusion. Elle est seule en cellule parce que le matricide n'est pas très bien vu en prison et qu'elle a subi un viol en réunion. La violence, quel que soit l'univers, se passe-t-elle toujours à l'intérieur d'une cellule, qu'elle soit familiale ou carcérale? Ces quelques vers me font repenser à elle. À celle qui est née quand elle a tué, refusant la culpabilité qui ronge, dans un monde sourd à nos colères qui grondent. Condamnée à mourir d'ennui, elle m'a fait mourir de rire derrière les murs de l'oubli. Grâce à Sabine, le temps passe vite au mitard. Après 4 jours, me voici à nouveau dans une cellule de 6, situation transitoire qui me prend à la gorge, comme cette codétenue toxicomane en manque qui se jette sur moi en pleine nuit pour que je le trouve de la drogue. Les nuits suivantes, je dormais avec une fourchette sur l'oreiller avant de demander à changer de cellule pour incompatibilité d'humeur, entre guillemets. Je demande à retrouver ma codétenue. J'ai hâte de revoir Marcel. Elle doit avoir des tonnes de choses à me raconter. C'est alors que l'administration m'annonce sa décision de nous séparer. Nous séparer? Ce n'est pas possible. Ne peuvent-ils reconsidérer cette aberration? Avec Marcel, nous avions chacune trouvé une alliée pour traverser l'épreuve de l'incarcération. Nous avions construit un cocon protecteur dans un monde impitoyable. La décision pénitentiaire est irrévocable. Divisée pour mieux régner, telle est la règle du jeu. Voilà, donc Girl Fight, Audrey Chenu, auteur féministe.
À tout moment, ils peuvent venir te prendre pour le moment qui est à leur disposition.
Il est sans papier, c'est pour cela qu'on le traite comme ça. Il est sans papier.
Comment l'État a tordu les lois pour s'acharner à expulser.
J'arrive pas à comprendre qu'on soit vraiment dans un déni de la personne.
Je vais me marier pour les papiers parce que je comprends pas les frontières. Si quelqu'un pouvait m'expliquer pourquoi on a dessiné des lignes par terre.
Alors, eh ben, on va faire un tour du côté de l'Italie et alors là, on va parler un tout petit peu de la presse italienne qui commence à comprendre les stratégies des migrants enfermés dans les centres de rétention. Alors, c'est sur un événement, ça s'est passé le jeudi 26 septembre vers 13h. Une révolte éclate dans le centre de rétention de Via Corelli à Milan. Des matelas et des meubles sont incendiés. 2 retenus ont été arrêtés car ils seraient, selon l'administration, les meneurs de la révolte. Bon, alors ça veut juste dire qu'ils ont dit « Allez les gars, on y va !» Puis ça veut dire que t'es un peu meneur de la révolte quand même. Donc voilà, et on sait que les centres de rétention italiens connaissent beaucoup d'émeutes en ce moment, notamment cet été. Alors la presse analyse, là je cite, « On suspecte que la stratégie d'incendie soit une stratégie qu'utilisent les étrangers pour réussir à se faire transférer dans d'autres centres d'Italie moins surveillés, dont il est possible de s'échapper. » Eh bien, il aura fallu un petit moment pour comprendre, en tout cas. À une plus grande échelle, ces révoltes qui sont souvent suivies de fermetures partielles ou totales des centres de rétention, ça permet quand même directement de faire baisser le nombre d'expulsions. Parce qu'en gros, même si les autorités surchargent ces centres, ils ne peuvent pas remplacer toutes les places, c'est le cas de le dire. L'équation est donc logique. Moins de places en centre égale moins de personnes arrêtées, donc moins d'expulsions. Cet été et ce début de rentrée pour l'Italie ont été particulièrement chauds dans les centres. On revient vite fait dessus. Beaucoup ont dû fermer. C'est le cas de celui de Croton, Catanzaro, excusez-moi pour l'accent, Tripani, Brindisi, Bologna et Modena. Au total, sur 13 centres de rétention que compte l'Italie, 6 sont fermés suite aux émeutes. C'est quand même plutôt la classe. Et du coup, même sur les 7 restants, seuls 2 n'ont aucune fermeture partielle. Les 5 autres, certains sont fermés de 10% et d'autres ils sont fermés jusqu'à 70%. C'est quand même pas mal. Et selon des chiffres du ministère de l'Intérieur italien, l'Italie a une capacité d'enfermement réduite de 950 places actuellement. Alors ça fluctue un peu là parce qu'ils reconstruisent vite fait derrière, mais habituellement quand même, on est à 1901 places d'enfermement. Du coup, plus de la moitié des places détruites, quand même, ça force le respect. Pour finir avec tout ça, des camarades en Italie vont faire une manifestation devant un centre de rétention en Italie qui est prévu le samedi 5 octobre à 17h. C'est au CIE de Corso Brunelleschi. C'est vers Turin, c'est pas très loin de la France. Si vous voulez y aller, allez-y. Voilà, si on arrive à choper des infos la semaine prochaine, on vous tiendra au jus.
Il faut que ça se sache.
Donc jugement ce mercredi 2 octobre qui avait lieu à 16h à cour d'appel de Lyon, et donc c'était pour un procès en appel contre un mineur en cours de régularisation pour avoir apparemment menti sur son âge. Donc je re-raconte l'histoire. Donc ça s'est passé le 3 juillet. Le tribunal correctionnel de Lyon refusait de condamner Mohamed Ba, un jeune collégien guinéen mineur accusé par le parquet et le conseil général de mentir sur son âge. Il mettait en doute la méthode des tests osseux utilisés par la police de l'air et des frontières pour prouver la soi-disant majorité de Mohamed. Mais le parquet s'est empressé forcément de faire appel de cette décision favorable à ce gars. Donc, il avait été placé en garde à vue le 21 mai, puis présenté aux comparaisons immédiates du tribunal correctionnel. Il était accusé par le parquet et le conseil général, qui s'est emporté partie civile, d'avoir menti sur son âge estimé par des tests osseux entre 21 et 35 ans. Ce qui est franchement n'importe quoi, des tests osseux qui peuvent donner une fourchette d'âge de 14 ans. Je sais pas comment ça peut être valable pour un tribunal, quoi.
Une fourchette d'âge de 14 ans qui s'approche juste de la majorité, mais...
Donc depuis 2012, cette mauvaise aventure est arrivée à plusieurs dizaines d'autres jeunes mineurs isolés étrangers, rien que dans le Rhône. Et du coup, ils ont mis en place ces textes de manière abusive. Forcément partout. Donc, finalement, le juge avait décidé de le laisser libre sous la protection des éducateurs de son foyer et de ses enseignants du collège, en attendant le jugement prévu pour le 3 juillet. Et la cour d'appel avait confirmé ce jugement. Et comme le 3 juillet, le juge refusait de conclure à la majorité de Mohamed, estimant n'en avoir aucune preuve fiable, il se déclarait incompétent en s'appuyant sur l'avis unanime du conseil d'éthique et de nombreux experts et professionnels sur le manque de crédibilité des tests osseux, pour lesquels une marge d'erreur d'au moins 18 mois est déjà communément admise. Donc lui, il a pu reprendre ses cours, etc. Mais le problème, c'est que le parquet s'acharne et il remet en cause la décision d'incompétence du premier juge. Et donc, d'où l'importance du résultat de cour d'appel de sa condamnation aujourd'hui, qu'on ne connaît pas. Mais c'est pour ça que RESF s'est mobilisé là-dessus, parce que c'était important là, que le procès en appel soit gagné. Les conditions des jeunes mineurs étrangers isolés en France, c'est pas la joie. C'est quand on est mineur, on n'a pas de sous. C'est souvent fuir la PAF. C'est être traîné ensuite de force à UPTL pour subir des tests osseux, des tribunaux. Il y a plusieurs mineurs, comme ils ont accusé d'avoir menti sur leurs âges, qui font de la tôle ferme, et d'autres qui font de la prison avec sursis. Voilà. Et Bon, plein de trucs à dire. Et pour finir, parce que je dois raccourcir, il y a peu de temps, le sort des mineurs étrangers met en lumière les politiques racistes du gouvernement d'Hollande. Et une récente circulaire de Manuel Valls a encouragé les préfets à pratiquer la chasse aux mineurs étrangers considérés comme des fraudeurs en puissance.
Il faut que ça se sache.
On part en Angleterre et ça se passe au centre de rétention de Yarlswood, où 30 femmes migrantes prisonnières se sont mises en grève de la faim pour dénoncer les violences dont certaines d'entre elles ont été victimes. 8 femmes du centre accusent des gardes de viol. Elles dénoncent aussi le fait que l'administration et le gouvernement accélèrent leurs expulsions pour les empêcher de s'organiser et de protester contre ces agissements. Tania, le prénom a été modifié, est la première personne à avoir porté plainte et à témoigner un peu dans la presse. Elle est originaire d'un pays de l'Est, mais dit ne pas connaître sa nationalité exacte. Elle raconte que ça arrivait très vite, au bout de 2-3 jours après son arrivée, des gardiens commencent à lui faire son attouchement. Dès qu'elle a porté plainte, l'entreprise Serco, c'est une entreprise privée qui gère le centre, a essayé de se couvrir. Des gardes lui ont foutu la pression pour qu'elle retire sa plainte. Et en lui disant notamment que si elle ne retirait pas sa plainte, elle irait en prison pour accusation, accusation mensongère, ouais, c'est ça. La première plainte a eu lieu le 1er décembre 2012. Alors, pour petit rappel, en Grande-Bretagne, les délais de rétention sont illimités. Dans les jours qui ont suivi, ils ont essayé de l'envoyer au Kosovo. Alors elle est un peu prise de panique et elle a eu quand même une pure réaction. Elle a appelé direct l'ambassade du Kosovo pour leur expliquer ce qui s'était passé. Et là, le Kosovo a annulé le vol, enfin dit qu'ils annulaient l'autorisation de vol de l'appareil. Ce qui a fait qu'elle n'a pas été expulsée. Pendant l'enquête, ils ont tenté plein de fois de l'expulser au total dans 9 pays différents, dont l'Allemagne et la France. Mais à chaque fois, ça a foiré. Au final, l'équivalent de la PAF anglaise a admis qu'il y avait, alors là, je cite, suffisamment d'évidence pour suggérer que les 3 officiers, parce qu'ils étaient 3, ont agi de manière non professionnelle, mais il précise qu'elle n'aurait pas indiqué aux enquêteurs que les contacts sexuels étaient consentis ou non. Le mois suivant sa plainte, elle a tout de même été relâchée sous caution du centre. Alors ça va être une subtilité locale, bon, en France c'est pas possible, mais peut-être là-bas c'est possible. Suite à cette plainte, d'autres femmes ont dénoncé ces pratiques. Elles témoignent avoir vu des gardes toucher des femmes. Donc il y a des femmes qui témoignent pas forcément, qui n'ont pas forcément été victimes de ce truc-là, mais qui ont vu ces agissements. Et aussi, elles disent que les gardes, ils monnaient un peu ces trucs-là. Enfin, en tout cas, ils disent si tu me fais des faveurs sexuelles, machin, je vais t'arranger sur ta carte d'immigration, tu vas sortir plus vite, tu seras pas expulsé. Non. Bon, ça, c'est quand même complètement faux. Ils peuvent pas faire ça. En tout cas, je pense qu'ils essayent même pas. L'entreprise Serco déclare que, et là je cite, les contacts sexuels entre résidents et le staff sont toujours inacceptables. Nous nions catégoriquement l'idée qu'il y ait un problème répandu de tels comportements à Yarlswood et en aucun cas nous ne fermons les yeux. Alors là, une fois qu'ils ont dit ça, ils ont à peu près rien dit. Ils disent parce que nous ne fermons pas les yeux, là c'est qu'à un moment ils ont été accusés là, de fermer les yeux, ce qui est quand même plutôt crédible. Vu leur attitude depuis le début, les associations de droits des femmes réclament que toutes les plaintes soient prises en compte, que les retenues soient libérées immédiatement et qu'elles soient sous protection pour ne pas qu'elles subissent de pression des gardiens. Affaire à suivre.
Il faut que ça se sache.
Et une dernière petite brève pour finir ce Canu Info. Dans la nuit de lundi à mardi de cette semaine, un sans-papier s'est fait la belle du centre de rétention de Mélina Mlot en escaladant les grilles, en déjouant les caméras et les détecteurs automatiques de mouvement. Un vol pour le CL.